Bienvenue sur Allegre FM 93.1, je suis Cad, l'homme du 92, écoutez Championne. Notre émission sur le sport féminin, nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. En l'occurrence, ce sera de la roue, de la rustine, du chrono, les fous du guidon, nous arrivons. Et en seconde partie, nous brosserons un portrait de la légende française de la course de vitesse, la championne olympique et moult championne du monde des années 90, Félicia Ballanger, triple médaillée d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta 96 et Sydney 2000. Pour cet épisode, je serai accompagnée de Camélia, dit la lanceuse de chat noir des Hauts-de-Seine. Je la cite, un bonbon où je vous roule dessus avec de l'huile d'olive. Ça va Camélia?
Excellent, surtout après cette vanne.
Parfait. Où vous soyez, bonne écoute, merci de votre attention, c'est l'épisode 8 de la saison 2. Et mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs, auditrices. Nous allons donc parler de course de vitesse. Appui sur la pédale Randall, un célèbre dicton du nord de l'Amérique. Alors, discipline olympique depuis 1896 à Athènes et donc les Jeux modernes. D'ailleurs, Camélia, un avis sur la course de vitesse, ça va les tornades cette semaine?
J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup. En même temps que j'ai découvert une athlète, une très grande athlète dont on va parler tout à l'heure et qui m'a impressionnée par sa musculature notamment.
Les cuissous.
Jamais vu un truc pareil.
Les cuissous sont pas mal.
Je sais pas si je porte de l'intérêt en fait à ce sport-là, parce que je suis pas une grande amatrice de vélo.
Ouais.
Mais c'est assez intéressant.
Ouais.
J'attends justement que tu puisses m'apporter,
développer
peut-être encore une fois pour me convaincre d'aller le pratiquer. Comme chaque mois, tu essaies de me convaincre d'aller pratiquer un sport, ça a marché deux fois.
Ouais.
Ça peut marcher une troisième fois.
Non, je pense que je peux te convaincre. Je pense que je peux te convaincre. Course de vitesse sans problème. Alors, vous connaissez le rendez-vous en direct de l'émission le vendredi de 19h à 20h, mais aussi le mardi matin en rediff de 10h à 11h. Nous sommes bien en direct comme d'habitude, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous retrouver en podcast. Alors, si vous êtes coincé quelque part, par exemple à l'Assemblée nationale en train de voter la taxe Zuckerman, comme ça, au hasard. C'est pas grave, vous pouvez les retrouver en replay sur la page de la radio. Tapez Google Allegre FM Podcast, cherchez l'émission Championne. D'ailleurs, nous avons plein d'autres émissions sympas. L'huile sur le jeu, Cappuccino, les arènes de l'écologie, Radio Scénique. Chacun son tempo si vous aimez la musique. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont bien en ligne. Et ça, c'est fou, c'est magnifique. Jomoto applaudit, là maintenant, tout de suite. Alors ça, c'était un troupeau de... de doigts.
Les miens.
Exactement. Si vous voulez nous suivre sur Instagram, c'est @champion_l'émission. On va prendre un petit instant, bien sûr. Camélia, est-ce qu'il y a des projets en dressage de cochon d'Inde cette semaine?
Il y a des projets de dressage d'esprit.
D'esprit.
Davantage.
Oui.
Je trouve que c'est un sport qu'on ne pratique pas suffisamment, ou alors de moins en moins.
Le sens critique, je crois, c'est ça.
Le sens critique, exactement.
Ouais.
Et dans critique, il faut savoir que faut que ça soit toujours positif et négatif. Il ne faut pas que ça aille que dans un sens.
Exactement.
Donc, tu mets une critique en tout cas.
Bien vu. Il faut qu'elle soit constructive en tout cas.
N'est-ce pas ?
C'est le plus important. Pourquoi vous me regardez comme ça ?
Non, pas du tout. Je te regarde en fait pour que tu puisses acquiescer que ce n'est pas souvent le cas à l'extérieur de manière générale.
Ah oui, alors là, si on parle évidemment d'autres cas comme certains plateaux télé, mais je pose la question bien sûr.
Exactement.
Alors, évidemment, je suis très content que tu sois là d'ailleurs au passage.
Moi aussi, merci de m'avoir invité.
Un bisou bien sûr à Sandrine, à Chai et à Elodie qui malheureusement n'a pas pu venir cette semaine. Elle sera là bientôt, ne vous inquiétez pas. Et on va passer aux questions de la semaine. Donc merci à Sandrine d'avoir trié les 900 999 mails, dont 900 997 spam. Et de plus en plus, on a des mails.
C'est fou, hein,
c'est dingue. Donc si vous voulez nous envoyer un message, c'est championne@aligre.org. N'hésitez pas. Premier message. De Arthur Penché 75. Je suis sûr que vous ne faites jamais de vélo, et ça va défendre encore Hidalgo. Alors merci du message Arthur Penché 75. Déjà, on n'a pas tous la chance d'avoir eu un chauffeur privé, une émission de télé le vendredi soir, et un bras qui tire à droite quand on dit salut. Ceci dit, je prends pas vraiment le vélo, il est vrai, mais plutôt mon Uber personnel, le RER, le réseau exceptionnel pour rentrer chez soi. Bien que le vélo... c'est plutôt sympa. Et ben, je n'ai pas de jet privé. Alors, on n'a pas tous non plus fait un spectacle écrit par nos potes humoristes mis en scène par Isabelle Nantier en 2005, avec des dates en Belgique, en Suisse et toute la France. D'ailleurs, morceau choisi de cet endroit. Et là, Camélia, j'ai toute ton attention. C'est une vanne de son spectacle, je ne rigole pas. L'avantage avec les filles rondes, c'est qu'après l'amour, elles te font toujours à manger. Pas pour être sympa, mais parce qu'elles ont faim. Fin de la blague.
Je vais m'étouffer.
C'était en 2005. On peut dire quand même qu'il y a quelque chose d'assez fou là-dedans. Question suivante. Louis XVI du 93. La taxe Zucman, c'est trop grave. On va confisquer tout aux riches. Alors, merci du message, Louis XVI du 93. Alors, je rappelle que c'est 2% pour le patrimoine personnel et professionnel au-dessus de 100 millions d'euros. D'accord ? Cela concerne à peine 1800 foyers sur 68 millions, soit 0,002% de la population. C'est même moins que 2%, donc 99,998% de la population ne sont pas du tout concernés par la taxe Zucman. Et si l'écart vous échappe, petit rappel, il restera 98% de la fortune des riches, 98%, c'est l'efficacité du vaccin contre la rage. 98%, ce n'est toujours pas le score de Macron au second tour. 98%, ce n'est pas non plus votre score de victoire sur Fortnite. Donc bon, ça devrait aller. Surtout que 2% pour une croissance à 6% annuelle des fortunes les plus riches par an en France, ça va, il leur reste 4%. Je rappelle quand même que le PIB de la France, c'est 1,2% en 2024. Et une dernière question, bien sûr, de Météoman 34. Le réchauffement climatique, les tornades en région parisienne et celles dans les Caraïbes, c'est chaud, lol. Merci du message Météoman 34. Alors le climat, comment dire ? Tu vois ton découvert du 10 ? Bah, c'est la santé de la planète, c'est tout pareil. Elle a payé son loyer d'existence, et après elle paye la facture d'eau, la fameuse facture océan et continent plastique, elle la paye. Puis elle paye la facture espèce en voie de disparition, qui augmente chaque année. Il y a une inflation sur ce sujet,
ouais,
c'est fou.
Ouais, c'est vrai.
Ensuite, elle a eu une fuite dans sa machine à laver. Il faudrait d'ailleurs la remplacer, mais elle n'a pas le budget. Elle a mis le programme essorage Itabasse, 1,5 degré en plus sur la planète, 24, qui passe à 15 degrés toute l'année, la plus chaude jamais enregistrée de l'histoire. C'est fou quand même. En gros, le petit pull bleu marine et bleu fleuve qu'elle possédait, il va vachement rétrécir. Ainsi que votre consommation d'eau, j'imagine. Certains vont avoir soif. Comme dirait Jean-Claude, dans l'eau, dans 15 ou 20 ans, il n'y en a plus. Et puis, il y a l'impôt pollution. Ça n'y échappe pas, la planète. Gaz à effet de serre, CO2, plastique, uranium des centrales nucléaires. Exceptionnel. Alors, certains se disent, mais si c'était si catastrophique, on en parlerait plus. Bah, il paraît qu'il y a un organisme qui s'appelle le GIEC qui en parle chaque année. Et sachez que cette année, le 24 juillet, la Terre, elle était déjà en crédit, comme certaines personnes en France. La capacité de renouvellement des ressources naturelles, finito pipo, comme on dit. Et chaque année, ça recule. Ah là 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 là. Et mais évidemment, à la télé, on préfère parler des woke, des étrangers, des pauvres. Mais j'ai jamais vu un milliardaire mourir emporter son butin dans l'au-delà.
Ouais, ouais.
Voilà, mm-hmm. À méditer. C'est le moment où vous faites semblant d'applaudir. Merci de m'avoir écouté, bien sûr. On repart sur le sport, la course de vitesse.
J'écoute. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Convainc-moi.
Non, ça t'évoque quoi déjà ?
La course de vitesse ?
Ouais.
Un vélo ? Des muscles ? Un vélo, des muscles, beaucoup de rapidité,
ouais.
Énormément. Je pense que c'est très différent de la piste, il me semble.
Alors,
me
c'est sur piste pas. Qu'en fait, tu cours dans un vélodrome, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus court, finalement. Mmh. Ça dure moins longtemps.
C'est
hein,
ça. C'est
ça,
des courses de 500 mètres. Et
exactement. Donc, finalement, c'est peut-être un peu plus, je dirais, que l'énergie que tu y mets, potentiellement ou intuitivement, je dirais, que tu dois y mettre un peu plus d'énergie que si tu le faisais sur piste classique, on va dire.
Ah non, ça démonte.
On est d'accord. Ah, ça demande énormément de, on va dire, encore un peu plus de mental.
Oui.
Ok.
Du mental et de la puissance.
Est-ce que c'est ce qui explique des musculatures disproportionnées ou pas ?
Des cuisses, ouais.
Ouais.
Bah, déjà,
c'est vraiment une question que je me suis posée. Voilà, hein, on en parlera après. Mais
non.
J'étais très impressionnée. Pour moi, c'était même pas réel ce que je voyais.
Si. En fait, le truc, c'est que pour avoir de la puissance dans le vélo, tu vas utiliser tes mollets, mais surtout tes cuisses, en fait. Les gens le savent peu.
C'est
dans le foot aussi, Roberto Carlos qui nous écoute, on l'embrasse, du Real Madrid, le Brésilien, des grosses cuisses, évidemment. Et en fait, les cuisses, c'est vraiment pour la vitesse et la puissance. Donc, quand tu es sur un vélo, tu regarderas les sprinteurs au Tour de France, par exemple, ont toujours des cuisses énormes. Vraiment, c'est un des trucs qui est le plus impressionnant sur la musculature d'un cycliste, en fait. Et t'as raison, c'est vraiment de la puissance. Donc, le cyclisme sur piste, comme on l'appelle, a été présent à tous les Jeux Olympiques depuis 1896, à l'exception de celle de Stockholm en 1912. Mais sachez que pour les femmes, la première épreuve féminine est apparue en 1984 sur route, pour le coup, comme tu disais, avec Jeannie Longo, on l'embrasse bien sûr, elle nous écoute, et ensuite en 88 avec la poursuite et la vitesse, donc dans le vélodrome.
Ouais.
Pour cette vitesse, je vais expliquer ce que c'est, ne vous inquiétez pas, mais c'est les deux épreuves reines en fait de ce sport. Il y a aussi le VTT féminin masculin apparu en même temps en 96, le BMX, lui en 2008 pour les femmes et les hommes. Donc bon, à part un petit excès de quasiment un siècle, ça va. Ça va, on n'est pas loin. Donc, en 2012, une refonte est mise en place en vue de respecter la parité homme-femme. Donc, du coup, la poursuite individuelle et la course de points, elles vont être retirées pour d'autres trucs. Ça va, on va un peu compliquer les règlements. Mais la course de vitesse dont on va parler, dont Félicia Ballanger, notre portrait de la semaine, est littéralement championne, existe toujours en championnat du monde, mais n'existe plus forcément dans le même format aux Jeux Olympiques. En fait.
Aujourd'hui, ok, d'accord.
C'est un peu ça. Et on a remplacé par des choses assez folles, notamment le keirin. Et le keirin, je suis obligé de vous en parler, c'est exceptionnel. Je vous explique.
Okay.
C'est originaire du Japon. Les courses de keirin sont généralement longues sur 2 km. Comme tu as dit, la course de vitesse, on n'est pas à des 100, 300 km. 2 km, d'accord. C'est 5 à 7 coureurs. La course est lancée par un meneur qui, généralement, est en moto.
Okay.
Il fait le lièvre. Okay. Les coureurs doivent rester derrière le lièvre tant qu'il n'est pas écarté. Donc, en gros, ils courent comme des oufs. Ils roulent d'abord à environ 25 km/h. Ils accélèrent progressivement jusqu'à atteindre 50 km/h, non pas en voiture, mais en vélo. Et c'est à 600-700 mètres de l'arrivée que la moto s'écarte et ils bombardent.
Mais attends,
ils bombardent comme des machines.
Tu peux répéter le nom de ce sport ?
Le keirin.
Mais ça existe depuis combien de temps ?
Je sais pas, ces disciplines olympiques, j'ai jamais entendu parler de ma vie.
Mais jamais de la vie, j'ai entendu un truc pareil.
Et c'est originaire du Japon.
Du Japon ?
Exactement. Comme quoi, les Japonais inventent des sports des fois.
Mais pourquoi on n'a jamais vu ça aux Jeux Olympiques ?
Je sais pas, alors peut-être ça passait le matin.
C'est possible, ouais.
Mais non, pour le coup. Alors, le cyclisme sur piste, évidemment, comme on l'a dit, ça a été inventé en Europe, France, Royaume-Uni, 19e siècle, bien sûr. Et effectivement, ça a trait aussi avec l'invention du vélo. Et là, je te laisse décliner un peu le vélo.
Ah non, mais moi,
cet outil extraordinaire.
Mais j'ai découvert justement en faisant des petites recherches tout à l'heure et hier que y a un joueur de vélo qu'on appelle Drézienne.
Oui, tout
donc,
à fait.
Du nom, en fait, finalement, de Carl von Drez, qui a lui-même inventé le vélo en 1817.
Voilà.
Et en fait, je me demandais ce que c'était, donc je l'ai googlé. Et je découvre, en fait, que c'est un vélo sans pédale.
Ouais.
Et à ce moment-là, je me rappelle, je suis un petit peu en...
Tu te rappelles ton enfance, en bébé
Exactement, je suis en rétrospection et je me dis, mais attends, j'ai déjà vu un vélo comme ça, mais j'avançais avec mes pieds.
Oui.
Mais en fait, je découvre qu'en réalité, c'est
une Drézienne.
Exactement, mais surtout que c'était les adultes aussi qui l'utilisaient. Et j'ai commencé à m'interroger sur quelque chose et je pense que à l'époque où Carl von Drez a créé en fait ce vélo, à mon avis, ça devait être une avancée technologique formidable à ce moment-là, hein, en 1817. Mais qu'en réalité, ça devait être vachement inconfortable. Parce que tu n'avais aucun amortissement. S'il y avait des, des dodanes, au final, tu te faisais mal.
Ouais, le cadre était en bois, je crois, d'ailleurs.
Je ne sais pas en combien de temps t'arrivais, finalement, puisque tu avances avec tes pieds. Donc, j'ai aucune idée. Mais surtout, je me demande, pourquoi est-ce qu'en inventant ce vélo, il n'a pas pensé à mettre des pédales ? Parce que c'était déjà quelque chose d'inventer le vélo.
Oui, je suis d'accord.
Ajouter...
Le pédalier, il n'y a pas pensé. Hein.
En fait, simplement par imagination, si tu vois en fait que tes pieds, en tout cas tes jambes, ont ces mouvements-là, assez cycliques, tu vois, quelque part, pourquoi est-ce que ne pas avoir pensé à mettre tes pédales ?
Parce qu'en fait, il a fait de la propulsion simple, et après, évidemment, le pédalier propulse beaucoup plus.
Mais incroyable, en fait. Moi, je pensais, sincèrement, je pensais que c'était à la base que pour les enfants, parce que moi, j'ai eu ça.
Et c'est, là où tu découvres qu'une invention, quand elle est créée, elle est imparfaite.
Oui. Il y a ce qu'on appelle ensuite des innovations incrémentales, en fait, qui, au gré du temps. Mais j'ai beaucoup ri.
Oui, non, mais
parce
c'est
que
fort.
J'ignorais complètement que c'était les adultes, en réalité, qui étaient dessus. Moi, je pensais que c'était un truc d'enfant. Hein,
et attends,
pour apprendre à marcher, justement, pour essayer de nous accommoder à la marche, finalement, quand t'es bébé, c'est à peu près ça.
Oui, on l'a conservé, effectivement.
Oui, ouais.
Comme on a conservé le tricycle, qui est une forme
exact,
de vélo.
Exactement, parce qu'il est plus simple, exactement.
Et puis, moi aussi, justement, à utiliser le pédalier.
On en a tous eu, un tricycle, mais j'ai trouvé ça quand même assez étonnant.
Non, c'est étonnant. Et d'ailleurs, je complète, puisqu'on parle du vélo, qui est un moyen de transport et de locomotion extraordinaire, qui, pendant la résistance, nous a beaucoup servi en France, notamment pour les femmes, qui est aussi un outil d'émancipation pour les femmes, pour pouvoir se déplacer seules. Je vais te laisser parler des tenues, mais avant, j'ai envie de t'expliquer qu'à un moment donné, le vélo était interdit pour les femmes. Sais-tu pourquoi ?
Non, j'ai un petit souvenir, mais j'en suis pas sûre, mais j'aimerais écouter...
Alors, je vous invite bien sûr à écouter l'épisode sur le vélo avec Janie Longo. Je dis coucou à la régie juste pour le fun. J'ai envie de vous dire coucou. Et en fait, le truc qui est fou, c'est que c'était médical. Il y avait des médecins qui disaient, je cite, « Une femme avec la selle, il y a un frottement. Et ce frottement leur donne du plaisir. Donc c'est mal. »
Ah non,
voilà.
Ah, je pensais pas du tout à ça.
Je te jure que c'est ça.
incroyable.
Extraordinaire.
C'est
médical.
Incroyable.
Hein. Il y avait des psys, il y avait des médecins de grand nom qui disaient c'est interdit, il ne faut pas qu'elle fasse de cheval parce que le frottement de la selle leur donne du plaisir, c'est mal. Voilà, véridique.
Oui, c'était assez moralisateur oui. À ce moment-là, mais bon,
début
sur un autre
siècle.
Spectre encore, c'est impressionnant ce que j'apprends, je ne savais pas du tout.
Et du coup, les femmes ont dit non, on prend le vélo comme on veut, et c'est là où effectivement le pantalon a été créé pour les femmes, entre guillemets, puisque les femmes n'avaient le droit de porter que des robes.
Oui, à ce moment-là, oui. Et là, c'était très inconfortable pour pédaler. Ça, on en avait parlé, je crois, à l'épisode dernier, quand on avait fait sur le tir.
Oui, tout à fait.
On en avait parlé de ça, c'était assez impressionnant en fait de savoir que ça se faisait avec des robes à l'époque.
Ouais.
C'est fou.
Imagine ta robe qui se prend dans le pédalier en montagne.
C'est ce à quoi j'ai pensé.
Ouais, laisse tomber. Donc bon, du coup, le vélo. Alors, on revient au vélo, bien sûr, course de piste, tout ça. Donc, le cycliste sur piste masculin, on l'a dit, aux Jeux Olympiques depuis 1896. Pour le féminin, sur route 1984, Los Angeles. Et bien sûr, il arrive en sprint en 88. Alors, est-ce que c'est un sport mixte? Alors, oui et non. Il y a des épreuves pour les filles, pour les garçons, mais pas en même temps. Il y a effectivement la course de vitesse, on en a parlé. Donc, c'est des équipes de 3 contre 3. Et en fait, les 3 contre 3, ils partent chacun, si tu veux, parallèle à la piste.
Okay.
Et ils doivent, en fait, être les plus rapides. Et en fait, ils font une chaîne. Et quand ils bombardent, ils s'écartent, le deuxième passe. Ils bombardent, le troisième passe. Tu vois, c'est vraiment un relais, en fait.
Okay.
Mais ils sont pas sur les deux équipes ne sont pas face à face ou côte à côte. Elles sont vraiment chacun parallèle d'un bout de la piste. Et en fait, c'est au chrono qu'elles gagnent. Et c'est hyper impressionnant, ils vont à une vitesse t'imagines pas.
Donc ça demande une très très grande coordination.
Ouais.
Okay.
Et la poursuite individuelle, c'est différent. Et ça, c'est sur 3 km pour les femmes, 4 km pour les hommes, et c'est un délire. En gros, je t'explique. On part ensemble, et il y en a un de nous deux, il va prendre la tête, ok. Et j'ai le droit de m'arrêter direct. Et toi, tu me regardes, je te regarde, qui démarre, tu vois.
Ok,
tac, tac,
d'accord.
On se regarde, okay. Et bam, après d'un coup ça part, et c'est vraiment du sprint de fou malade.
Il y a un petit jeu de l'esprit aussi, quelque part.
Et en plus, on prend. Il faut savoir que comme c'est des pistes vélodrome, donc incurvées, si vous voulez, tu peux être en haut et descendre, parce qu'en bas, tu feras ton tour plus rapide,
mais j'aime trop.
Monter et tout, c'est
j'adore.
Un délire. C'est très technique, très physique, et franchement, ça vaut le coup de regarder. C'est aux Jeux Olympiques, j'essaye de regarder parce que c'est vraiment très très sympa pour le coup. Alors évidemment, ça a lieu aux Jeux Olympiques, il y a des championnats du monde avec l'UCI, l'Union Cyclisme International, les championnats d'Europe. Merci. Nous avons des championnats de France, bien sûr, grâce à la Fédération française de cyclisme qui s'en occupe. Combien de licenciés à la Fédération française?
Je suis très nulle à ce jeu.
Allez, je vous joue chez
vous. Mais c'est du cyclisme, donc j'imagine qu'il y en a énormément comparativement à d'autres sports dont on a pu parler précédemment.
Allez, vas-y.
Allez, je sais pas, 15 000.
Alors, 108 584 licenciés.
C'est déjà de base. C'était sûr. Tu sais que pour moi, 15 000, c'était déjà énorme à dire. Je pensais sincèrement que je m'en rapprochais.
108 584 licenciés en France. Des chiffres du 15 juin 2025. Je n'ai pas la part des femmes, mais apparemment, l'augmentation des licenciés femmes a augmenté de 23%. Il y a 2351 clubs en France, ce qui est plutôt pas mal. La licence coûte 67 € pour le loisir, à peu près. Si vous voulez faire de la compète, c'est 85.
Non, ça va.
Vous rajoutez 30 € sur le club. Ce qui va vous coûter le plus cher, évidemment, c'est vélo, casque, chaussures.
Le matériel.
Coûte vraiment le plus cher. Mais avant de partir sur le matériel, nous allons prendre une petite pause. Une petite pause musicale. Et on va s'écouter de la musique faite pour faire du vélo.
C'est pas vrai?
Si. Musique maestro, s'il vous plaît.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Et oui, à bicyclette avec Paulette. Et là, c'est top, vraiment, c'est top. Moi, j'adore ce qui se passe.
C'est vraiment le choix idoine.
Tu es trop près de ton micro.
Le choix idoine.
Ah bah là, t'es pas, là, c'est bien, là, c'est très bien. Du coup, oui, le choix idoine total. Alors, bonjour à vous, auditrices, auditeurs, bien sûr. Nous sommes toujours sur allegrefm.93.1. Je suis toujours cas de l'homme qui est du 92. Nous sommes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. On vient d'écouter l'excellent, l'extraordinaire titre d'Yves Montand, à bicyclette, avec Paulette, bien sûr. Toute ma jeunesse. Et aujourd'hui, mon nom est le ninja aux roues dorées, le justicier de la route. On va demander à la plus grande spécialiste des petits goûters de 4 heures avec du lait et un 4 quarts. Comment ça va?
Ah, je sais pourquoi t'as dit ça en plus. Les autres le savent pas, hein, mais je sais pourquoi est-ce que tu as dit ça.
Voilà.
Comment ça va? Bah, je vais très bien.
Oui.
En l'occurrence, est-ce que tu attends un commentaire particulier de ma part? Dis-moi.
Pas du tout.
un regard suffit pour me transmettre justement. Voilà. Intuitivement, ce que tu veux que je dise.
Exactement. Alors, dédicace à la régie, bien sûr, comme d'habitude, Diego Armando Maradona, aussi présent. Et bien entendu, on embrasse toutes les personnes qui travaillent à Allegre FM, c'est important. Mmh. Et maintenant, nous allons parler de notre légende de la semaine, Félicia Ballanger, avec deux L.
Oui, j'ai vu.
Tu as vu?
Oui, j'ai vu.
12 juin 1971, la naissance de Félicia Ballanger, La Roche-sur-Yon, vendéenne, française. Discipline, le cyclisme sur piste. La vitesse. Et bien entendu, 500 mètres départ arrêté. Puissance, explosivité, domination psychologique de cette dame, elle est extraordinaire.
Remarquable.
Ah oui, fou.
Non, vraiment, remarquable.
D'ailleurs, sans vous faire patienter, je vous donne son palmarès tout de suite pour que vous voyez. 3 médailles d'or olympiques, une en vitesse à Atlanta 96, 2 à Sydney 2000, une en vitesse, une 500 mètres, départ arrêté. Et sachez qu'avec Marie-Josée Pérec, c'est l'une des rares sportives françaises à arrêter triple médaillée championne olympique.
Ouais.
Ça vaut le coup quand même de le souligner. Évidemment, en titre mondial... 10 titres.
Oui, 10, j'ai vu. Non, voilà. Mais ça, c'est. C'est pour ça que j'ai dit, elle est absolument remarquable.
Voilà, 95, 96, 97, 98, 99, voilà, c'est QL.
Bon, elle n'a pas le temps, de toute façon, elle ne les respecte plus.
En vitesse, en 500 mètres, elle a éclaté tout le monde, voilà. Il faut savoir qu'elle a un record, c'est une des rares personnes qui, pendant 6 ans, n'a jamais été battue.
Invincible. Invincible.
Allez, prends ton vélo. On va régler ça dehors, Jean-Michel.
En fait, c'est exactement comme ça que je le perçois, je t'assure.
Je t'embrouille avec elle. Prends ton vélo.
Prends ton vélo.
On va régler ça sur la route.
Invincible.
Invincible, c'est exceptionnel, vraiment. Pour le coup. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, elle réside maintenant à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Elle a 2 enfants. Et la biographie de cette dame. Après avoir dans sa jeunesse pratiqué de concert le handball et le cyclisme, quand on parlait dans une ancienne émission, souvent les sportifs font 2 sports, voire plusieurs. Donc c'est une des pionnières sur le coup de faire plusieurs sports. Elle était licenciée à La Roche-sur-Yon. Et là, elle devient championne de France en 1986. Donc vous avez vu, elle a 15 ans.
C'est fou.
Voilà, 15 ans, championne de France. Alors que moi, j'étais champion de France de lancer de boulettes. Au collège. Ouais, au collège, j'étais fort.
Moi aussi, mais j'étais dans championne de France du monde, mais dans ma tête.
Ah, dans ta tête, toi?
Ouais.
Moi, c'était en fait, tu sais, je prenais le stylo, je mettais la petite papate et tout. Tu vois, on avait un truc à Nanterre, je pense qu'on devait être champion de France sûr et certain. Donc, elle obtient son premier titre de championne du monde junior en vitesse sur piste en 1988. Donc là, Elle a 17 ans. C'est déjà très fort. Et on continue, puisque ce n'est pas terminé. Pour ses premiers championnats du monde senior en 90, elle échoue seulement à la 4e place. Elle part aux Jeux Olympiques de 92 à Barcelone. Et la saison suivante, elle subit des blessures, notamment la cuisse transpercée par une latte du vélodrome et clavicule cassée.
Ouh, ça fait mal la clavicule cassée, voilà. Par contre. Hein.
Parce que je fais une parenthèse.
Tu t'en mets difficilement.
Je fais une parenthèse sur un truc. En vélo, d'après toi.
Oh non.
Quel est le record du monde de vitesse ?
330 km/h, j'ai vu. Mais il y avait une aide. Il y avait une aide. Je crois qu'il y avait quelque chose, une nouvelle technologie qui propulsait. Je sais plus, mais je sais que c'est soit 330, soit j'ai carrément vu 400 000 tu vas sur une autre planète. Hein. 400 km/h, on est d'accord ou pas? C'est entre 300
chérie,
et 400.
Chérie, je vais chercher du lait, je passe par la lune. M'attends pas.
Non, pas 400 000. Je suis sûre que c'est entre 300 et 400.
Oui, t'as complètement raison. Et ça, c'est avec assistance, mais sans
voilà.
Assistance.
Ah, sans assistance, bah, j'irai la moitié.
Eh ben, écoute, 296 km/h.
Bah non.
Si. 296, pire qu'une voiture. En fait, c'est une femme, c'est une Californienne.
Juste avec tes jambes.
Ouais, c'est une Californienne qui a le record. C'est assez ouf d'ailleurs. Elle a un record impressionnant, 296 km/h. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est tractée par un dragster. Et au bout d'un moment, le dragster la lâche.
Ouais.
Il la lâche déjà à
130, 150. Et en fait, elle continue à pédaler en fait, vite.
Exactement.
C'est ça, hein.
Okay, il la lâche à 130, 150 sur des miles. Et elle, en fait, elle percute. La Californie a fait 296 km/h sur
c'est
un vélo.
Énorme.
Tu meurs. Enfin, pour moi, je fais une chute à 296 km/h.
Mais en fait, je me demande comment c'est possible. Parce que j'essaie d'imaginer déjà en moto, quand t'es dans les 140, 150, c'est énorme.
C'est ouf. C'est ouf.
Mais alors là, 296 km/h. Ouais, c'est...
Et c'est la femme la plus rapide du monde, homme confondu. Hein. Elle a un record inégalé jusqu'à aujourd'hui.
Je savais pas du tout.
Mais c'est des Américains en même temps.
Et alors ?
Bah, ils sont fous. C'est eux qui ont inventé le VTT, je te rappelle. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas, l'invention du VTT, c'est des Californiens légèrement avec des substances illicites et un peu d'alcool, qui dans les montagnes sont dit ah viens on se jette à vélo dans les montagnes.
Oui, j'ai vu. Non mais c'est vrai.
Dans les années 70.
Ah ouais, j'ai vu.
Et ils ont inventé le mountain bike, qui d'ailleurs est l'un des cette marque très connue et l'un des fondateurs du VTT. Donc les Californiens, tu sais. Peur de rien. Donc pourquoi je fais cette parenthèse ? Parce que la chute dont on a parlé, cuisse transpercée, clavicule cassée, quand vous savez à quelle vitesse ils peuvent monter sur piste, tu te défonces comme si tu tombais d'une moto. Hein.
Alors, il y a déjà eu des accidents ou pas ?
Ouais, j'en ai vu moi. J'ai vu des chutes. Voilà.
Okay. Aux chutes que tu peux voir éventuellement.
Ouais,
en fait,
c'est marrant que tu dises ça parce que quand ils glissent, ils font la glissade de lâcher le vélo et se laisser tomber quand ils peuvent. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu, c'est des freins. Généralement, les chutes que j'ai vues, c'est tu roules très vite sur la piste, d'accord ? T'es dans ta lancée et à un moment donné, tu perds le contrôle du guidon. Et ta roue avant, elle fait...
C'est exactement comme la moto. C'est exactement comme la moto. C'est
la perte de contrôle. La perte de contrôle, elle te met par terre direct. J'ai rarement vu des dégâts où c'est le frein qui lâche et c'est rare. C'est
J'ai une question qui peut pas...
Mais c'est du très haut niveau.
Débile. Quand ils se font propulser comme ça à des vitesses énormes, ils sont habillés comment ? Parce que là, tu peux pas me dire qu'ils sont en tenue de cycliste. Hein. C'est pas possible.
Si.
Il faut... Non.
Pour les Jeux Olympiques, Félicia Ballonger, c'est de la tenue de cycliste.
Non,
hein.
Mais c'est impossible d'être à 296.
Parle pas de la même chose.
Non, mais moi, je te parle de ça.
Non, la meuf en dragster, je sais pas, elle est habillée comment.
Mais elle est obligée de mettre une combinaison ou un casque.
Elle doit avoir des trucs aérodynamiques de casque, je sais pas quoi. Ouais, mais par contre, je pense que si elle se frite sur le sol, il lui dit bonjour et il l'embrasse. Brûlée au 7e degré direct, pour moi. Je crois qu'elle n'a pas le choix. Quoi.
Okay.
Mais oui, sur la piste, moi je disais, ce que j'ai vu, c'est la perte de contrôle sur piste où les mecs ils se viandent. Quoi. Et c'est pour ça que ça reste un sport vraiment de haut niveau. Parce qu'en vérité, on va très très vite. Et donc Félicia Ballonger, après cette blessure en 94, elle obtient la première médaille lors des mondiaux à Palerme. Elle y décroche la médaille d'argent dans l'épreuve de vitesse. Donc c'est vraiment, tu bourrines, hein, vraiment. Et après, évidemment, le début de sa domination sans partage, c'est lors de 4 éditions des mondiaux, de 96 à 99, après sa médaille d'or, elle a plus personne là-bas. Voilà. Elle est là, et puis elle dit allez, c'est fini, laissez-moi tranquille. Et elle va vraiment défoncer tout le monde jusque les années 2000. En 2001, Elle a arrêté sa carrière, mais elle devient quand même vice-présidente de la Fédération Française du Cyclisme, la fameuse FFC, très connue. Elle est actuellement, au moment où on parle, chargée de mission sport au Haut-Commissariat de la République de Nouvelle-Calédonie, responsable du pilotage des dispositifs et correspondante régionale pour le sport de haut niveau. Jusqu'en 2022, elle a travaillé pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la direction de la jeunesse et des sports, comme conseillère sportive, chargée notamment du sport de haut niveau et de la lutte contre le dopage. Elle a été également conseillère municipale de Nouméa. Elle est très très investie sur la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, on l'embrasse, et force à la Nouvelle-Calédonie et les Kanakis. Pour le coup, c'est pas très marrant depuis un an ou deux. Je pense que si on parle très peu de cette athlète, c'est parce qu'elle est partie en Outre-mer.
Ouais, ouais.
Et que généralement, quand tu pars d'Outre-mer, tu n'existes plus. Parce qu'on parle des territoires Outre-mer seulement quand ça nous arrange.
Ouais.
Voilà, hein, pour le dire. Mais en tout cas, elle a un palmarès de fou. Elle a été consultante pour France Télévisions, justement, pour les JO d'Athènes et de Pékin 2004-2008. Elle est aussi, il faut le dire, elle a une récompense qui est chevalier de l'Ordre National du Mérite. Ha ! Elle est entrée au LFM du FFC aussi. C'est une grande dame.
Oui.
Vraiment, c'est une vraie madame. Hein.
Et apparemment, très, très sympathique, il semblerait.
Ah ouais ?
De ce que j'ai lu, ouais, des articles. Très sympathique. Une acharnée du travail.
Moi, je suis pas étonné.
En tout cas, les gens la décrivent comme ça et elle se décrit en fait comme ça aussi.
D'accord.
C'est quelqu'un qui a passé beaucoup, beaucoup de temps en fait à s'entraîner pour atteindre ses objectifs. Donc, on n'est pas que sur du talent ou
ouais, voilà, y a vraiment un mental,
un destin
quoi.
Qui lui était vraiment réservé par la vie. Il y a toute une préparation en amont. Et c'est ce qui explique en partie qu'elle mérite tous ses titres.
Ah oui,
parce que pour pouvoir en fait être championne du monde 10 fois, enfin excuse-moi, enfin
oui,
10
si,
fois.
Je suis d'accord, 10 fois c'est beaucoup.
Enfin au bout
5 ans d'affilée comme ça, direct.
Au bout d'un moment, c'est pas simplement ton talent, c'est pas simplement juste du travail. Je crois qu'il y a aussi un excès de travail, un excès d'entraînement,
un mental.
Et c'est la raison pour laquelle en fait elle était invincible.
Ah non, pour moi elle était invincible.
Tout le monde la craignait.
Vraiment, en fait. C'est un délire. D'ailleurs, elle a fait aussi plein de choses, comme par exemple, on a parlé la dernière fois des sports concomitants. Elle faisait de l'apnée.
Ah.
Elle s'entraîne en apnée pour le souffle et tout, tu vois.
Okay.
Donc elle a vraiment fait plein de choses pour sa prépa. Moi, il y a une citation qui m'a fait rire de sa part, qui était pas mal. Donc c'est, elle fait un entretien, c'est pour France TV, pour un documentaire qui s'appelle La Piste, dans lequel elle intervient. Et elle dit, ce n'est pas, et là je voulais ton avis sur cette phrase, ce n'est pas la vitesse qui est dangereuse, c'est l'hésitation.
Oui. Je pense que, parce que l'hésitation, en fait, elle implique une certaine peur, automatiquement. Plus t'as de l'hésitation, plus t'as des doutes, et moins, finalement, t'es concentré sur ce que t'es en train de faire. Donc,
c'est surtout qu'à cette vitesse, si t'hésites,
exactement, si
c'est l'erreur.
En fait, ben justement, à partir du moment où tu commences à hésiter et donc à t'interroger, c'est fini.
Voilà.
Donc, il vaudrait mieux juste avancer. Juste t'avances et tu te dis qui vivra verra, c'est tout. Point.
À fond les ballons, comme on dit. Effectivement, elle a eu énormément de récompenses. C'est vraiment une grande dame du sport français qui est peu connue parce que je me suis aperçu que tu la connaissais pas en fait.
Ah, pas du tout.
Alors
pas
que,
du tout.
Alors moi, c'est parce que je regardais les championnats du monde de l'époque où elle a gagné tout, là, 96, 97, 98, 99.
Oui, non mais d'accord, moi j'avais 3 ans, 4 ans à ce moment-là.
Oui, enfin, Marie-José Pérec, tu sais qui c'est?
Non, même pas.
Quoi, Marie-Jo?
Non, je t'assure que
Marie-Jo, la grande Marie-Jo, la célèbre Marie-Jo.
Non.
La gazelle, comme on l'appelle.
Pas du tout.
Bah, elle a porté la flamme?
Non, c'était à quel moment?
Mais les Jeux Olympiques 2024.
Ah non, j'ai pas vu, j'ai pas suivi moi.
Oh.
Les JO. Mais bon. Non, je t'assure, je les ai
je
pas
t'invite
suivi.
À écouter.
J'étais ailleurs. Mais
je t'invite à écouter l'épisode.
Je les regarderai en rediff par
voilà.
contre.
Voilà.
En 2026.
Je t'invite à regarder la rediffusion sur l'épisode de Marie-Jo. Mais en tout cas, dans les grandes sportives françaises, elle a vraiment sa place. Parce qu'en tout cas, la fin des années 90, c'était très célèbre, si tu veux. Donc moi, je regardais. Et en fait, on avait pas qu'elle. On avait aussi Gaëtan Maurice, je crois. En fait, on avait 3-4 Français qui étaient très forts sur cette discipline. Donc du coup, France 3 diffusait les championnats du monde.
Ouais.
Donc elle a beaucoup de visibilité, sachant qu'elle a gagné à Atlanta et à Sydney. Forcément, on la voyait beaucoup, tu vois. Donc moi, je la connais comme ça. Et encore une fois, merci le service public. Merci France 3, sans qui je n'aurais jamais connu la course sur piste, tu vois. Et c'est vraiment Je conclurai là-dessus, c'est vraiment une discipline que je vous invite à regarder parce que c'est très impressionnant, la poursuite où ils se regardent sur leur vélo, vraiment en duel de cow-boy, tu vois, et c'est le premier qui démarre. Et si tu démarres et que en fait, l'autre il te rattrape et il te bat, tu vois, t'as quand même la rage. Ou alors il faut vraiment que tu lui mettes un boulevard, c'est très
mais
technique.
Mais t'as pas l'impression en fait que c'est limite un sport de combat finalement?
Ouais, si, quand même.
En tout cas, l'orchestration. Comment ils se regardent, tu sens une sorte de tension.
Il y a tension, énorme tension.
Et en fait, cette tension, elle me rappelle les sports de combat.
Si. Et que ce soit fille ou garçon, c'est parce qu'en fait, on est dans un duel. Que ce soit de la vitesse ou que ce soit de la poursuite, t'es dans le duel, t'es là pour battre l'adversaire.
Ouais.
On n'est pas sur autre chose que battre l'autre. Et en plus, comme ces équipes sont réduites, on peut être 3 max, tu vois. Forcément, les mecs, ils sont hyper acharnés, quoi. Et donc, sur ce, bien sûr, nous allons nous mettre un petit peu de musique et on va écouter le Train qui court, musique maestro.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et oui, keep on moving, mesdames et messieurs. C'était...
Très bon morceau, vraiment. Ah, merci pour ce choix.
Dédicace à Sandrine pour le morceau, bien sûr, le long train qui court. parce qu'on n'a toujours pas pris nos billets de train pour aller voir la belle famille. Alors vous êtes toujours... vous êtes toujours sur 93.1 à Allegre FM, le Sucade, l'homme du 92. Vous êtes bien dans l'émission championne. On vient d'écouter The Long Train Running des Dubby Brothers. Pour m'accompagner, j'ai toujours Camélia. Jamais de sobriquet pour la troisième partie, c'est la règle, bien sûr.
Toujours
passe. Nous avons toujours la régie qui est en place, Diego Armando Maradona présent, bien sûr, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons parler de manière libre, des sports et leur empreinte carbone. Alors pourquoi ? Parce que le vélo, il paraît que ça n'en a pas beaucoup. Et on va parler d'empreinte carbone. Alors c'est quoi une empreinte carbone, ma chère ?
Bah justement, je te laisse la définir puisque tu t'en es fait un spécialiste.
Effectivement, et je n'étais pas parti chercher cette définition, donc je vais l'inventer dans l'instant. L'empreinte carbone, c'est tout simplement le nombre de kilos, de grammes, de tonnes de CO2 que votre activité peut fournir. Le CO2, c'est le gaz à effet de serre, si vous préférez, le dioxyde de carbone, a trait au réchauffement climatique. Et je me sens vachement bien informé parce que ça, je viens de le dire de tête. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant.
Oui, oui, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, voilà. Si je devais le résumer.
Imaginez que vous avez un chauffage dans votre maison, quoi. Voilà. Alors, la problématique de ça, c'est que bah, quand c'est trop chaud, et comme on l'a dit tout à l'heure dans l'édito, quand vous prenez 15 degrés, 1,2 degrés par an, bah, au bout d'un moment, la planète, elle devient trop chaude. Et si elle devient trop chaude, ça dérègle, en fait, son fonctionnement naturel, qui est d'avoir, évidemment, bah, des pluies, de l'eau, le renouvellement aussi, bah, tout simplement, de la nature. Nous avons des saisons, c'est pas pour rien dans certaines régions.
Le respect des saisons, on va dire. Voilà.
Et donc, si vous avez l'habitude d'avoir un écosystème qui a besoin de l'hiver, qui a besoin du printemps ou de l'automne, mais d'un coup, c'est que l'été,
ouais.
C'est ce qu'on appelle
un dérèglement.
Ça
dure plus longtemps. Ouais. Voilà. Ça dure plus longtemps aujourd'hui.
Ça va dérégler et la nature va, comme d'habitude, et comme dirait le professeur Grant, trouver un chemin. Jurassic Park, c'est la rêve.
Ouais.
Trouvera un chemin, certes, mais du coup, ça va tout changer. Et ça veut dire que nous et les personnes qui vivent dans ce coin du monde vont peut-être pas réussir à s'adapter, ce qui est un peu problématique. Ouais. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai pris un sport qui, soi-disant, pollue énormément. Je vais vous donner le truc.
Je sais c'est lequel.
La Formule 1.
Exact. J'étais sûre que tu allais parler de ça.
Justement, on en parle tout
le
temps.
Ouais, non, mais c'est vrai que ça, c'est le plus polluant.
Alors, il paraît que c'est le plus polluant. Oui. Car il y a 256 000 tonnes de CO2 par saison.
Fou.
Voilà, une saison de F1, ça donne ça.
Et sans compter les moments d'entraînement aussi, parce que
C'est compté dedans.
C'est compté dedans.
Parce que tu as 72% de ces tonnes de CO2 viennent des déplacements logistiques, avions, fret maritime, cargo, parce qu'il faut emmener toute l'équipe, il faut emmener les voitures.
Ouais, les déplacements humains, bien sûr.
Déplacer. Et bien sûr, il faut déplacer la mécanique, les moteurs.
T'as le coût des infrastructures, parce que c'est jamais au même endroit.
Exactement. Bah, en fait, vous devez aller à Dubaï, vous devez aller en Hongrie, vous devez aller au Royaume-Uni, en Espagne, en Amérique, en France.
À Monaco.
Monaco. 27%, c'est effectivement seulement les équipes. Le directeur sportif, les hôtesses, les gens qui doivent se déplacer en avion ou tout simplement les gens du coin qu'on a embauchés qui vont faire le truc, il faut qu'ils se déplacent en voiture, etc.
C'est assez conséquent, hein, les déplacements, finalement.
C'est assez ouf. Hein.
On dirait pas comme ça, mais juste les déplacements, ouais, exactement.
Les gens, c'est un tiers.
Ouais.
Et bien sûr, c'est là où on en vient. Eh bien, sachez que lorsque les voitures roulent, comme tu as dit, qu'elles fassent les essais ou la course, c'est seulement 1%.
En fait, c'est le coût d'infrastructure, les déplacements.
Ouais, tout le monde autour.
Mais c'est incroyable, au final. Parce que le sport en lui-même, finalement, n'est pas si polluant que ça.
Exactement.
C'est ce qui est accessoire au sport, à ce sport-là, qui pollue le plus.
Ouais.
C'est carrément incroyable de savoir ça.
Non, c'est fou, parce qu'en fait, on a le poncif. Que ouais, la Formule 1, ça pollue parce que hydrocarbures, parce que la gomme chauffe quand tu fais, la gomme elle va chauffer sur la piste, etc. Alors que pas du tout. En fait, c'est tous les gens qui sont venus voir le Grand Prix, tous les gens qui travaillent pour le Grand Prix, c'est le déplacement de tout le monde, l'attaché de presse, tout ça. C'est tout ça qui va créer en fait le déplacement de CO2.
C'est presque absurde en fait d'entendre un truc pareil.
Donc 256 000 tonnes. Un MotoGP, c'est 150 000 tonnes, tu vois. Et comme tu as dit, la logistique et l'aérien, c'est 75%. Les déplacements personnels, on est à 20%. Donc,
il ne reste pas grand-chose finalement. C'est fou.
C'est la même chose. Donc, on a vraiment aujourd'hui ce truc-là. Par exemple, j'ai regardé pour la Coupe du Monde du Qatar. La Coupe du Monde du Qatar, d'après toi, c'était combien de millions de tonnes de CO2 ?
Allez, 22.
Un peu moins, 6 millions.
Ah ouais, mais c'est pas un peu moins, c'est carrément moins en fait. C'est beaucoup moins que ce que j'ai annoncé.
Je suis pour l'Olympique de Marseille, j'ai le droit de dire un peu moins, d'accord ?
Ok.
Donc en fait, il faut savoir que ce qui est le plus dommageable sur la Coupe du Monde au Qatar, encore une fois, c'est pas forcément la construction de stades. C'est pas forcément sur place.
C'est le déplacement.
C'est tous les touristes qui sont venus.
C'est incroyable.
Les attachés de presse, l'avion pour aller jusqu'au Qatar, les voitures sur place pour se déplacer.
C'est incroyable. Etc.
C'est tout ça qui crée en fait l'impact carbone en fait des sports qui ont l'air d'être très polluants. C'est parce qu'en fait il y a tout le monde qui doit venir. Et en fait là il y a un dilemme qui est important, c'est est-ce qu'on doit dire aux gens de ne pas venir ?
Ouais, tu fais un huis clos, tu sais. Un stade sans supporters.
Tu vois ?
Juste avec les. Mais du coup, le fait qu'il n'y ait pas de bruit de supporters, ça doit être assez angoissant pour les
alors,
joueurs.
Alors, j'ai déjà vu des matchs à huis clos, c'est horrible. C'est horrible.
Tu les entends. Tu ouais. les entends entre eux, tu vois. Genre.
C'est ça.
Tu c'est trop bizarre. Un peu comme quand tu fais un urban. Ouais, c'est quand ça. Tu fais un urban, c'est exactement la même chose.
L'ambiance, elle est nulle. Les mecs s'entendent. Et surtout, les joueurs ont déjà parlé de ces sujets. Ils ont dit que c'était pas bien du tout.
Tu fais un visio de supporters.
Voilà. Bah,
connexion mondiale pour chaque ville.
Tu penses au Covid dans ces cas-là, tu vois. Ouais. Et c'est là où tu vois aussi un truc qui est à contrario. C'est lors du Covid, lorsqu'on ne pouvait pas se déplacer, évidemment que les dauphins ils sont revenus à Venise.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est logique,
fou,
en fait.
Ils se sont sentis en sécurité.
Bah oui, parce qu'en fait, le truc qui pollue le plus aujourd'hui dans le monde du sport et dans le monde, on va dire, civil, c'est les déplacements. Les déplacements en avion, c'est le pire. Le déplacement en voiture, c'est pas très bon. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il vaut mieux préférer le train. Mais je dédicace ce message à la SNCF. La SNCF, si vous m'entendez, je vous adore. Je vous aime beaucoup, vraiment, pour le coup.
Oui.
Je suis très content que vous ne soyez pas privatisés.
Mm.
Mais... s'il vous plaît, les prix.
Les prix, ouais.
Les prix, arrêtez. Moi, quand je sens qu'aujourd'hui, et c'est la vérité, quand je peux prendre un Paris-Barcelone en avion, et ça me coûte moins cher qu'un Paris-Toulouse.
Ouais, c'est vrai ça. Hein.
Aller-retour, le Paris-Barcelone.
Il y a des moments, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
À un moment donné, comment vous voulez qu'on s'en sorte? C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ont peu de moyens, ils ont envie de voyager pour s'aérer la tête, ils vont aller là où est le moins cher. Et c'est clairement pas la SNCF.
Je sais pas si c'est les mêmes tarifs que lorsque tu souhaites aller un peu plus au nord de la France, mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué pour aller dans le sud, quand tu veux t'arrêter, je sais pas, à Antibes ou à Cannes ou à Nice. C'est le prix d'un Eurostar pour aller à Londres.
Ouais,
hein.
Ouais, oui, bah oui.
C'est juste
oui.
incroyable. Enfin, moi, je préfère aller à Londres, tu vois, à ce prix-là. Je...
Oh, je suis d'accord.
Et en plus, tu passes 5 heures. Tu vois, 5 heures le temps d'arriver à Nice.
Je suis allé à Cagnes-sur-Mer, mesdames et messieurs. C'est une ville qui est près de Nice. Dédicace à eux. Des gros bisous d'ailleurs à Nélia, que je connais là-bas. J'ai mis 7 heures.
Ouais, ouais, ouais.
7 heures de train.
7 heures pour un prix
défiant toute concurrence,
non, mais exorbitant, de plus en plus cher en tout
c'est
cas.
Ça
l'était pas tant avant. Donc oui, il y a un petit effort.
En fait, le truc est là, c'est que c'est beaucoup plus écologique de prendre le train, et c'est vrai que le train fait gagner du temps. Je fais un Paris-Marseille quand il y a le TGV, je fais un Paris-Rennes, etc. On peut y arriver beaucoup plus facilement que prendre la voiture. C'est un avantage. Mais en même temps, si les prix ils sont plus chers que prendre l'avion, à un moment donné, comment tu veux que le grand public puisse se dire la meilleure option, c'est de prendre le train? Puisque de toute façon, ils n'ont pas forcément d'argent. Et ils se disent, moins cher de prendre l'avion.
Paris-Nice, la dernière fois, était au même prix en fait, que le train.
Ah bah c'est absurde.
À grande vitesse, évidemment. Mais c'était le même prix. Donc, excuse-moi, entre 5h et 1h30, au bout d'un moment, j'ai bien entendu pris le train.
Voilà.
Mais au bout d'un moment, il faut savoir s'aligner aussi pour qu'on prenne un peu plus le train. Et donc, qu'on paye moins cher, logiquement.
Et en fait, le truc là, j'en parle parce que ça concerne un peu le sport. On va dire indirectement, vous allez comprendre. Si vous voulez voyager pour aller voir une Coupe du Monde, un championnat du monde de n'importe quel sport, c'est peut-être du foot, du handball, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on est parti plutôt sur pénaliser l'avion, rendre l'avion plus cher. Mais personne ne se dit, il faut juste rendre le train moins cher. C'est ça qui me choque.
Ouais,
c'est-à-dire
que
l'idée, c'est de
vrai,
dire...
on
va
le rend pas nécessairement moins cher.
En fait, ça ne sert à rien d'augmenter les prix et d'empêcher les gens de partir. Parce que si les gens ont envie d'aller quelque part, ils économiseront, ils iront, vous inquiétez pas. Et puis ceux qui ont les moyens ne vont pas se priver, ne vont pas se poser la question. Mais je ne vois pas le move, je le trouve très bizarre. Et en fait, ça n'aide pas non plus au développement du sport qui est bon pour la santé, tu vois. Mais en soi... les émissions de gaz à effet de serre, c'est assez fou. Et derrière, il y a une autre empreinte carbone dont on parle peu, que je trouve qui est assez aussi folle et il faudra un jour en prendre conscience. C'est qu'aujourd'hui, 50 kilos de CO2 par an, c'est l'utilisation normale de quelqu'un qui a un smartphone.
Ouais.
Ce qui est ouf. Quand vous le mettez à l'échelle de millions et millions de personnes, je vous laisse imaginer combien ça peut être. Mais c'est beaucoup trop. Je crois qu'on est à 350 000. Ouais, 350 000 pour la, ne serait-ce que la population française, déjà de base. Non, pardon, 3 tonnes 5, exactement. 3 tonnes 5, c'est les smartphones en France. Vanilla.
Ouais.
sans compter derrière qu'effectivement vous allez avoir une empreinte carbone qui est due au data center. Le data center, c'est chaque fois vous cliquez, c'est le centre qui va. Et pour le data center, il faut quoi? Il faut de l'eau pour pour pas qu'il chauffe trop. Et là, on arrive au degré de CO2 qui augmente.
Qui augmente, ouais.
Donc en fait, je pense que l'empreinte carbone du sport, il faudrait la lier aussi à l'utilisation des réseaux sociaux.
Mais je trouve qu'on n'est pas suffisamment informé en fait de toutes ces choses-là.
Non, il y a peu de.
Ou du moins, l'information, elle n'est pas nécessairement accessible.
Oui, c'est vrai.
Facilement.
Il faut la chercher.
Il faut la chercher.
Et au niveau du sport, ça va être lié aussi, parce que quand vous êtes dans votre stade en train de regarder les Jeux Olympiques, le championnat du monde, vous allez prendre une photo, vous allez prendre une vidéo, c'est normal en fait. Ouais. Vous avez envie de partager ce moment, ou en tout cas le garder au moins pour vous, si ce n'est après dire « Regarde Jean-Michel, j'étais à la Coupe du Monde !» Voilà. Mais du coup, vous allez encore accroître l'empreinte carbone, en fait.
Oui, mais là, ça induirait en fait qu'on se responsabilise encore davantage alors qu'on est suffisamment responsable, je trouve, nous, à notre petit niveau en tant que citoyen, je veux dire. Mais on ne peut pas non plus s'empêcher d'utiliser nos téléphones ou de cesser d'utiliser des tablettes. Je pense que la responsabilité, elle devait être un peu plus engageante pour les grandes industries qui, elles, polluent davantage que nous polluons au quotidien.
Exactement. Et c'est là où, en fait, où je voulais en venir. C'est-à-dire que tous les êtres humains de la planète ne peuvent pas endosser la responsabilité seule du changement climatique, même si certains font des beaux efforts comme le tri des déchets, les toilettes sèches. Ça va être plein de choses comme ça qui sont faites à notre échelle. Essayer de moins utiliser d'eau dans la douche pour ceci, cela. Et vous pouvez faire plein de choses à votre échelle, mais il faut bien retenir que...
Ce ne sera jamais suffisant parce qu'on se fait attraper par les grandes industries polluantes. Voilà. Donc finalement, nos efforts, c'est comme s'ils ne servaient à rien.
Et en fait, le truc où on vient encore avec le sport, c'est que pour fabriquer des vêtements de sport, il y a l'industrie du textile. Et l'industrie du textile.
Très polluante.
Voilà, je te laisse en parler.
Mais globalement, en plus, c'est d'actualité depuis quelques années. Et on n'a pas attendu l'actualité, en fait, pour le savoir. Je vise notamment les... La fast fashion avec... Et pas que. On a pas que ça. On a aussi Temu. On a toutes ces nouvelles industries qui nous viennent de Chine, qui plaisent de plus en plus en fait aux Européens, en tout cas sur le territoire européen, où on a de plus en plus de consommateurs qui préfèrent acheter des produits sur ces plateformes-là. Et par quantité énorme, parce que justement le prix est tellement bas,
c'est pas cher,
qu'ils en achètent par surquantité, même des choses qui ne sont pas nécessaires en fait pour eux. Ça ne répond absolument à aucun besoin, c'est juste du désir. Et aujourd'hui, en tout cas en France, on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour réguler en fait cette surconsommation de la fast fashion pour des vêtements en plus qui sont de mauvaise qualité.
Oui. Parfois mauvais pour la santé. Parce qu'il y a
parfois
du pétrole, des résidus chimiques dessus.
On ne sait pas trop de quelle façon ils sont fabriqués, ni par qui ils ont été fabriqués, dans quelles conditions en fait ils ont été fabriqués. Et on apprend bien entendu que Monsieur Castaner a fait du lobbying pour Chine. Et en fait, je me dis que c'est...
Alors, attends, parenthèse, Monsieur Castaner, qui est notre ancien ministre de l'Intérieur, c'est important de le préciser.
Oui. Mais en tout cas, qu'il a fait un pseudo-lobbying. Il a fait du lobbying pour Chine lorsqu'il a quitté en fait le gouvernement. C'était son nouveau travail, de ce que j'ai pu comprendre. Mais moi, ce qui me fait rire à chaque fois et ce qui retient toute mon attention, c'est toujours, donc partie 1, épisode 1, on moralise, on fait la morale, évidemment, on nous demande, on nous ajoute des obligations quotidiennes, on nous crée une sorte de culpabilité en nous donnant davantage de responsabilités et en nous faisant craindre qu'une grande catastrophe planétaire, mais derrière, on laisse des anciens responsables politiques, voire certains qui sont toujours en politique, finalement faire du lobbying pour ce type de société et ne pas se soucier absolument d'une quelconque régulation sur le territoire alors qu'on est censé donner l'exemple, puisqu'ils nous demandent de donner l'exemple.
Oui, et après le problème c'est que...
Donc comme d'habitude.
Voilà, les citoyens vont devoir se rajouter des habitudes là où des grands groupes en fait ont la main mise.
Absolument.
Et c'est eux qui doivent changer leurs habitudes.
Absolument. En tout cas en priorité parce que ça aurait un résultat plus effectif finalement je dirais pas de les sanctionner, il peut y avoir différents dispositifs à mettre en place.
En tout cas pour les forcer de changer de modèle.
Pour les forcer de changer de modèle, je pense qu'il y en a eu qui ont été mis en place, mais est-ce que c'est suffisant?
Non, à l'heure actuelle je pense
pas. Est-ce qu'un iPhone par an,
Quoi, tous les 6 mois, qu'est-ce que tu racontes?
C'est tout, je sais pas, mais je sais que tous les septembre, octobre, il y a un nouvel iPhone.
Il y a un nouvel iPhone et tu as la version ESP Pro
oui,
qui est tous les 6 mois.
Oui, Samsung fait pareil, mais est-ce que c'est nécessaire que tous les ans, finalement, on crée un nouveau téléphone? Non. Alors même que, je sais pas, la durée de vie de smartphone, c'est quoi? C'est 6 ans, 7 ans?
Ouais, à peu près.
Honnêtement, moi j'ai gardé le mien pendant 7 ans avant que je le change, hein.
Moi pareil, là-dessus je les garde des 5-6 ans
et j'aimerais tellement retourner au 3310 si tu savais Cad, vraiment une petite partie de Snake mais j'ai vu un que la maintenance n'était plus assurée premièrement et deuxièmement que je ne pouvais pas avoir de 3G dessus, donc concrètement vous ne pouvez pas m'appeler
non, je suis d'accord avec toi, en fait le problème c'est la surconsommation et qu'effectivement il n'y a pas besoin d'avoir un smartphone chaque année, il n'y a pas besoin d'avoir 50 paires de baskets, il n'y a pas besoin d'avoir 50 pulls et en fait j'ai envie de dire sur pour conclure, parce que c'est toujours trop court la troisième partie.
Non.
T'inquiète, on en reparlera. C'est pas de ne plus consommer qu'il faut dire aux citoyens, c'est de consommer mieux pour le coup. Si vous n'avez pas besoin de certaines choses, ça n'a rien. Parce qu'en fait, vous encouragez un système. Et en fait, le truc, c'est la course à l'argent. Les grosses industries vont simplement rajouter des choses, vous créer des besoins inutiles, simplement parce qu'ils veulent faire de l'argent, sans se soucier effectivement des dégâts environnementaux derrière. Et comme tu as dit, hein, si demain on fait des COP 21, 27, 28, mais que les Américains, les industries américaines s'en fichent, les industries chinoises s'en fichent, et qu'on va en Arabie Saoudite, là où il y a le pétrole, donc les produits fossiles, pas de nouvelle énergie. Qui accueille, on ne changera pas en fait.
Je suis d'accord, mais en fait, c'est tu ne peux pas dire aux citoyens de consommer mieux. Là encore, possiblement, on pourrait rentrer dans une certaine morale. En fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que c'est le marketing qui crée le besoin en fait, chez les citoyens. Et il y a aussi un effet de mime. On commence à désirer en fait, finalement ce que l'autre a. Pas
par
parce
le
qu'on le veut vraiment, mais c'est tout le problème en fait. C'est tout le problème.
Eh bien, je vais reformuler. Ce n'est pas consommer mieux, c'est nous faites pas avoir par le marketing.
Ouais.
C'est mieux.
Oui, être un peu plus alerte, ouais, sur ce que l'on désire vraiment.
Et ce qu'on a vraiment besoin. On arrive évidemment à la fin. Alors, je remercie évidemment Aligre FM, 93.1, la régie, Diego Armando Maradona, Camélia. Merci d'avoir été
merci
là, bien sûr.
Merci à toi, ça m'a fait plaisir.
La Fédération Française de Cyclisme, vous la retrouvez sur Instagram, sur @FFCyclisme. Moi-même, vous retrouvez @champion_ l'émission. La Fédération Mondiale de Cyclisme, c'est @UCI_cycling. Et bien sûr, un ami qui vous veut du bien, la page Facebook Quiz de Foot pour mon ami Damien. Et je te laisse le mot de la fin. Tu as 15 secondes. Vas-y.
Le mot de la fin est toujours le même. Moi, j'embrasse mes géniteurs. Je les remercie de m'avoir donné la vie pour que je puisse partager ce moment avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger, tant durant cette émission qu'en dehors de cette émission. Donc, je suis vraiment ravie.
Je suis ravie aussi et j'embrasse ta maman au passage.
Oui, des gros elle bisous. Aussi.
Et bien, sur ce, merci Diego Armando Maradona. Maestro, je vous laisse le générique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.